Ligne directe, Nicolas Iskiaou, Renaud Mali.
J'accueille tout d'abord Daniel Mange et Olivier Français. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors Olivier Français, vous êtes municipal lausannois en charge du département des travaux, conseiller national libéral radical vaudois, membre de la commission des transports et des télécommunications. Daniel Mange, vous êtes professeur honoraire à l'EPFL, membre du comité CITRAP, la communauté d'intérêt pour les transports publics, section Vaud, auteur de plusieurs ouvrages dont Plan Rail 2050, un plaidoyer pour la vitesse, paru il y a 3 ans. Tout d'abord, à l'écoute de ce reportage, Daniel Mange, ce que vous avez pu entendre, et notamment ce qu'on a entendu dans le dossier de Caroline Raymond, on a comme l'impression que la sécurité à bord des CFF n'est plus totalement garantie. Est-ce que vous partagez ce ressenti ?
Je crois que la sécurité est quand même un des objectifs numéro un des CFF. Je rappellerai cette publicité des années 50 où le slogan des CFF était « rapidité, sécurité, confort ». Donc la sécurité, c'est en fait un dû pour les usagers. Et c'est une des raisons qui leur permettrait même d'abandonner leur véhicule privé au profit d'un transport public sûr. La sécurité est indiscutée, indiscutable et incontournable. Alors bien entendu,
parce qu'on y est là aujourd'hui.
Sur le nombre du trafic, la densité du trafic suisse, un événement comme celui de Grange-Barnan peut surprendre, a surpris et nécessite un certain nombre de réflexions. La sécurité, pour moi, n'est pas en cause. Elle n'empêche pas une réflexion approfondie sur les 3 points centraux qui sont pour moi le statut du personnel, des pilotes de locomotives, sur l'amélioration de la sécurité des installations et finalement, à long terme, sur la sécurité du matériel roulant lui-même.
Mais vous, aujourd'hui, vous prenez le train, vous n'avez pas peur?
Non, mais je prends aussi ma voiture et ma voiture est beaucoup plus dangereuse que le train. On oublie de le dire. Récemment, on a vu un accident très spectaculaire à Aigle. On a appris de façon publique que l'automobiliste en question était malade. Ça ne se produirait pas dans un chemin de fer. On a affaire à des professionnels qui sont sous un contrôle de santé absolument strict. Et ceci n'a aucune comparaison avec le trafic privé dans lequel nous sommes plongés chaque jour.
Juste ce ressenti sur les réseaux sociaux, Renaud Malik, le débat circule depuis hier soir. Est-ce qu'on on a pu voir une peur éventuelle de prendre le train? Est-ce qu'aujourd'hui, il est ressenti, en tout cas?
Alors, pas vraiment. Ceux qui ont participé au débat sur Twitter et Facebook ne sont pas tellement inquiets pour leur propre sécurité. Le train continue d'inspirer confiance, même si tout de même quelques doutes, quelques ambiguïtés apparaissent. On relève, par exemple, le message sur Twitter de Savio Michelot, jeune PLR fribourgeois, par ailleurs connu pour son combat en faveur des transports publics. Alors, je cite, « Des lignes exploitées au maximum de leur capacité, moins de personnel, des systèmes de sécurité pas forcément adaptés, et pourtant, le train reste un moyen de transport extrêmement sûr. Je fais près de 30 000 km par an et je me sens pleinement en sécurité. » Fin de citation.
Vous avez l'air tellement calme, Olivier Français. Je pense que rien ne vous perturbe. Le train, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui vous fait peur.
Absolument pas. Bon, c'est normal qu'il y ait un débat après un accident aussi dramatique à Grange-Marnan ou celui qu'on a connu en Suisse alémanique. Et il est normal aussi que la société se pose des questions fondamentales.
Vous avez l'impression aujourd'hui que la direction des CFF, le politique, sont suffisamment en lien avec le personnel sur le terrain, précisément pour assurer une sécurité maximale?
Écoutez, je ne ferai pas d'état d'âme par rapport au lien du politique, par rapport au personnel, parce que ça, c'est des questions purement, alors vraiment, d'hommes et de femmes vis-à-vis des gens qui travaillent tous les jours et au quotidien, et des liens qu'on peut avoir de ci et de là avec les gens qui travaillent sur le réseau de chemin de fer. Par contre, il est clair que la restructuration progressive et la centralisation des décisions au sein d'une entreprise peut les éloigner sans aucun doute du terrain. Et puis aussi, dans une carrière professionnelle, s'il y a 10 ou 20 ans arrière, on faisait encore carrière dans une entreprise, aujourd'hui, il y a une mutation de l'activité professionnelle qui fait qu'on peut sans aucun doute perdre la culture d'entreprise et justement perdre ces fameux liens directs qu'on devrait avoir avec les uns et les autres.
La culture d'entreprise, justement, dans un secteur, dans une profession qui est particulière, celle de mécanicien, c'est vrai que c'est je pense que tout le monde a rêvé une fois d'être mécanicien autour de cette table, en tout cas conducteur de locomotive. Donc cette culture-là, vous avez l'impression qu'aujourd'hui les CFF sont encore, vous êtes quand même à la commission des transports, Olivier Français, vous connaissez bien le monde du train, vous avez l'impression que c'est encore quelque chose qui est d'actualité? Le témoignage qu'on a pu entendre, notamment dans le reportage 15 minutes, mettez cela en doute.
Disons que la personne qui a été interviewée reproche justement le manque de proximité des dirigeants vis-à-vis des gens qui sont là tous les jours. C'est pas seulement le conducteur de train, mais vous retrouvez ça dans toutes les entreprises dans lesquelles aujourd'hui on a des grands managers qui passent d'une entreprise A à l'entreprise B et qui manquent peut-être de connaissance justement de ce qui se passe sur le terrain. Et je crois que on a critiqué, beaucoup même critiqué, ces patrons qui étaient trop proches de leur personnel. On les dit les grands-papas, enfin ça, on disait qu'on était trop paternaliste et tout. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on revenir peut-être aussi à cette attention qu'a le dirigeant à l'égard de son équipe qui est là pour l'appuyer, tout comme elle est aussi là pour appuyer le patron. Maintenant, ce dialogue social est indispensable. On sait qu'il existe dans les entreprises transport. On parle que des CFF, d'ailleurs, ce qui me gêne un tout petit peu, parce que la problématique, elle n'est pas que CFF, elle est la sécurité sur le réseau et les transports publics. On a la même problématique même dans les transports urbains, dans lesquels on a des cadences pour certains qui paraissaient infernales. Je prends par exemple sur les transports publics lausannois aujourd'hui, c'est le chauffeur qui a des propositions d'un certain tournus et finalement il est adapté à sa vie sociale. C'est peut-être en cela, faudrait peut-être reprendre aussi peut-être quelques expériences qui a ailleurs et qui permettraient peut-être d'avoir une meilleure vie entre guillemets au sens global dans son aménagement du temps de travail. Donc je pense qu'il y a des solutions à trouver.
Justement, solutions, parlons-en, qu'elles soient politiques ou techniques, et bien évidemment aussi de management, puisque c'est un peu le mot d'ordre. Aujourd'hui, on le sent, Olivier Français. Tout d'abord, ces témoignages montrent aussi et posent une question de fond. Est-ce qu'on se donne suffisamment les moyens, Daniel Mange, d'assurer ce développement? Est-ce que la Suisse investit suffisamment, selon vous, de manière pertinente dans les réseaux et dans ces réseaux?
On ne fera jamais assez pour la sécurité. Le problème, c'est qu'on est pris entre deux feux. L'usager voudrait la sécurité absolue, le contribuable citoyen met un frein dans les investissements qui sont dirigés dans ces différentes directions. Et même indépendamment des investissements, on ne peut pas instantanément transformer toutes les situations ou toutes les situations dangereuses ou les installations de sécurité en une seconde ou en un jour ou même en un mois. Donc il y a une balance à faire entre les investissements raisonnables, l'urgence des investissements sur les points douloureux, par exemple Grange-Marnin, qui doivent s'étaler dans le temps, et puis à long terme, une politique tout à fait claire d'avoir les meilleurs systèmes de sécurité possibles.
De solutions techniques, Renaud Malik, on a reçu quelques témoignages, notamment des personnes qui se posent des questions sur l'automatisation.
Oui, effectivement, plusieurs internautes s'interrogent, et le démocrate chrétien valaisan Vincent Pellissier, lui, est catégorique. Oui, pour lui, l'automatisation diminue les risques, et il imagine même la possibilité de n'avoir un jour que des systèmes de transport sans pilote. Il cite le métro M2 de Lausanne, qui est
ça
entièrement...
Ça fait plaisir, Olivier France, ça.
Et oui, il cite donc le métro M2 de Lausanne, qui, rappelons-le, est entièrement automatisé, et il se dit persuadé, je cite, que le M2 va connaître des petits frères et des petites sœurs.
Il est français.
Écoutez, c'est sûr que l'automatisation diminue le risque, ça c'est évident, mais il y a aussi dans la corporation des chemins de fer des gens qui disent le fait que tout soit automatique, c'est qu'on n'est pas en éveil. Voilà, donc il y a un débat à avoir, mais ce qui est sûr, c'est que dans le reportage, vous voyez très bien la problématique de la somnolence, elle a été entre guillemets traitée il y a déjà longtemps avec cette fameuse pédale et qui montre que si le conducteur n'est pas attentif, le train s'arrête, quoi. Donc c'est une sécurité en tout cas pour les gens qui sont sur le réseau, mais néanmoins c'est peut-être pas suffisant. Ici sur Grange-Marnan, voire même ailleurs, on a constaté qu'il y avait peut-être des options stratégiques au niveau des signaux qui étaient faux, voire même des infrastructures, et c'est en cela que les CFF avec l'OFT, avec Sérénité, doivent apporter des solutions sur le court terme, parce que manifestement il y a des solutions qui pourraient être trouvées à court terme. Oui. Mais c'est quoi le court terme en termes d'infrastructures ferroviaires?
On demande à Daniel Manche.
C'est des études, non? C'est un minimum d'études, et puis après il faut acheter matériel, et puis il faut bien se rendre compte que cette automatisation, ça passe par un programme informatique relativement complexe, une architecture informatique relativement complexe, et c'est pas des solutions qu'on peut apporter à la clientèle comme ça.
Une Suisse M2, par exemple, pour reprendre cet exemple donc, de ce métro sans pilote, sans son conducteur, Daniel Mange, un jour, ce serait possible?
Alors, à différents niveaux. Le premier exemple, c'est celui du pilotage automatique dans les avions. On fait confiance au pilotage automatique, et le pilote est en éveil à l'arrivée et au départ, à l'atterrissage et au décollage.
J'espère un vol aussi.
Mais un minimum. J'ai visité
quand on vient son plateau repas.
Dans un poste de pilotage, c'est très tranquille entre l'atterrissage et je vous l'assure, je l'ai visité. Mais si on revient au monde ferroviaire, dans les lignes à grande vitesse, on a quelque chose d'assez équivalent. Sur les lignes à grande vitesse, où il n'y a pas de station intermédiaire, entre le départ et l'arrivée, on est presque en pilotage automatique avec ce nouveau système qui s'appelle ETCS, donc quel système européen qui est l'objectif pour la Suisse ferroviaire de demain. Donc on peut y arriver, on va y arriver, mais une fois de plus, c'est un processus lent, c'est pas instantané, et maintenant il faut s'accrocher à court terme sur de nouvelles consignes au personnel pour les points rouges et la correction la plus rapide possible de tous ces nœuds du type de Grange-Marnin où manifestement le système actuel, qui est le système Signum, n'est pas suffisant. D'accord. pour faire face à une crise.
Ça, c'est pour les points très techniques. Vous écoutez La Première. Nous sommes en ligne directe et on débat ce matin de transport public. Le risque zéro doit-il être possible? On en débat avec nos invités et on questionne également les conditions de travail souvent éprouvantes des mécaniciens. Est-ce que cela, ça vous inquiète? Vos appels au 0800 23 33 33. J'accueille maintenant Daniel Acherqui. Bonjour. Anthropologue, maître en enseignement et recherche à l'université de Lausanne. Des fois, on est en mode robot. Cette phrase, on a pu l'entendre dans le dossier de Caroline Raymond. Sur un tour de service, le mécanicien avouait que ça lui arrivait parfois de s'endormir jusqu'à 2-3 fois. Est-ce que ça vous a étonné, choqué, Daniela Cherqui?
Eh bien, choqué, j'imagine que comme tout le monde, oui, ça m'a choqué. Par contre, étonné, je dirais non, parce que ça me semble assez logique, finalement, vu le système social et le système économique, surtout, dans lequel on fonctionne actuellement. Et cela a déjà été souligné par l'un de mes prédécesseurs. On parle du système ferroviaire, mais on pourrait élargir le débat à bien d'autres choses. Dès qu'un accident d'avion survient, on commence à questionner est-ce que c'est une erreur humaine, est-ce que c'est une erreur technique. On focalise toujours le débat là-dessus. Dès le moment où c'est un accident ferroviaire, on focalise le débat sur les trains, mais la logique est exactement la même. Effectivement, cette idée de fonctionner en mode robot, je trouve qu'elle est extrêmement importante. Et j'ai entendu un mot tout à l'heure dans la première partie du débat qui m'a beaucoup interpellée, c'est la question de la confiance. Je crois que tout est là, finalement, parce qu'on est dans un système dans lequel on a une énorme confiance en la technique. Ça a été dit, l'automatisation, ça signifie plus de sécurité. Ce qui fait que, d'une certaine manière, c'est la machine qui devient l'étalon de comparaison à partir duquel on évalue l'humain. Et donc l'humain n'est jamais assez bon en comparaison avec la machine. Et du coup, comme résultat, c'est logique qu'on se met à machiniser l'humain pour essayer de faire en sorte que ses réactions et que sa manière de fonctionner soient plus proches de celles de la machine. Et on oublie un paramètre énorme, et c'est un énorme paradoxe, qui est que tout le monde fait des erreurs. L'erreur est humaine, le risque zéro n'existe pas. Et finalement, on entraîne l'humain dans un mouvement qui ne correspond pas à son rythme. Là, l'idée des paupières qui s'abaissent quand on conduit, c'est humain. Je veux dire, l'humain, par définition, est soumis à des rythmes biologiques. Mais le problème, c'est que maintenant, nos mécaniciens sont aussi soumis à un rythme qui n'a plus rien à voir avec les rythmes biologiques. Et je pense que c'est ça le problème. En amont, il faut questionner une société dans laquelle on soumet des individus à des rythmes qui n'ont plus rien à voir avec leur rythme biologique. Et en plus, on leur fait porter la responsabilité, porter sur leurs épaules une responsabilité qui finalement est complètement démesurée.
Mais comment analyser cette disproportion, Olivier Français, entre responsabilité individuelle et tâches demandées, dans le fond, entre ce qu'aujourd'hui on met comme pression sur les mécaniciens et sur n'importe quel, en fait, corps professionnel, parce que c'est vrai qu'on pourrait appliquer ce type de réflexion à n'importe quel job. Aujourd'hui, il y a une disproportion entre ce que l'on demande et ce que l'on peut produire, et on essaye à chaque fois d'arriver un peu plus vers une sorte de culte de la performance et de la rentabilité.
Ouh là là, vaste question. Je ne sais pas si on a assez de temps pour en débattre, mais je veux dire, je ferai une analogie avec la profession que j'exerçais, c'est le métier d'ingénieur. C'est que quand la machine est arrivée, on a exigé des ingénieurs de ma génération à être critiques. Et parfois, aujourd'hui, on n'est peut-être pas assez critique par rapport à la machine qui nous accompagne. Voilà, donc tout ça, c'est aussi une qualité de la formation qu'on a donnée aux uns aux autres et l'adaptation, entre guillemets, du temps de travail quand la machine nous accompagne. Moi, je pense que le débat, il est sans aucun doute intéressant. Il est un tout petit peu académique. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut penser aux hommes et aux femmes qui travaillent tous les jours avec des machines et sans aucun doute adapter ce temps de travail. À l'époque, on conduisait des locomotives. Il y avait quelqu'un qui mettait le charbon dans la locomotive à vapeur. Il y en avait un qui conduisait. Il regardait les signaux dans tous les sens. Il y avait peut-être moins de trains, mais c'était en tout cas reconnu encore aujourd'hui, encore plus dangereux que ça peut être aujourd'hui. Mais le métier était entre guillemets très très éprouvant et on pouvait avoir des problèmes quand même relativement graves sur le réseau.
Alors on fait quoi? On fait rien.
Non, on doit surtout pas rien faire. Comme je dis, c'est une notion de formation et puis sans aucun doute de revisiter aussi le temps de travail qui est donné aux uns aux autres quand il y a une mécanisation aussi accrue.
Renaud Manic, on nous appelle au 0823 33 33, pas mal de réactions aussi sur les réseaux sociaux, de la solidarité notamment.
La solidarité vis-à-vis des mécaniciens, Hélène notamment qui nous a appelé et qui nous dit qu'elle a travaillé avec des mécaniciens, qu'elle même voulait devenir mécanicienne mais qu'elle ne l'a pas fait au vu des trop nombreux dangers. Il y a trop de travail pour une personne seule, dit-elle. Maintenant, les les mécaniciens sont toujours seuls et ce n'était pas le cas dans le passé selon elle. Alors il faudrait des agents compétents supplémentaires. Beaucoup d'inquiétudes aussi sur Twitter et sur Facebook pour la santé physique et mentale des mécanos. Sur Twitter, la libérale radicale vaudoise Christine Winkler estime par exemple qu'il faut remettre l'aménagement du temps de travail au cœur des préoccupations et elle ajoute que les conducteurs de train, les routiers ou les pilotes doivent se concentrer et cela exige d'abord et avant tout du repos.
À trop vouloir sécuriser pour le bien-être de l'homme, on en demande beaucoup trop à l'homme justement, puisqu'on essaie de comme vous le disiez Daniela Cherqui, de le rendre finalement aussi capable qu'une machine. Il n'y a pas un paradoxe là-derrière ?
Il y a un paradoxe énorme, hein, mais le gros problème, je dirais, c'est la considération dans laquelle on tient l'humain dans cette histoire. Il y a un rapport américain qui s'appelle, qui porte sur les technologies convergentes, c'est-à-dire, j'ai compris dans les débats académiques, comme dit Olivier Français, mais un rapport américain que je trouve extrêmement intéressant, parce qu'il donne les lignes directrices des technologies pour lesquelles les Américains vont investir dans l'avenir. Et il y a quelque chose qui est rabâché en continu dans ce rapport, c'est que dans le tandem constitué par l'humain et la machine, l'humain, c'est le maillon faible. Donc on est arrivé à un stade, d'après eux, où maintenant, les machines, on arrive toujours à les améliorer. Par contre, l'humain a atteint ses limites, et donc maintenant, il faut travailler sur l'humain. Et c'est ce culte de la performance que vous évoquiez tout à l'heure, qui finalement, effectivement, enferme l'usager dans un... quand je dis l'usager, je veux dire toutes les personnes qui vivent dans la société, hein, dans un paradoxe énorme, qui nous met en conflit énorme entre, d'un côté, la nécessité d'être toujours au top, d'être toujours à la hauteur, de ne jamais être faillible. Et ça, je trouve qu'on le ressent énormément dans le reportage que vous avez diffusé, avec cette idée du tabou et du fait que les gens n'osent pas dire qu'à un certain moment, ils sont fatigués. Et je trouve que tout le paradoxe réside là-dedans, au fond, entre cette humanité. Finalement, c'est comme si notre problème, c'était notre humanité. Et ça, je crois que c'est quelque chose que collectivement, il faut vraiment qu'on questionne.
Daniel Mange, ce refus du risque zéro que l'on souhaite, que l'on exige aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on a réduit notre tolérance à l'erreur, qu'elle soit technique ou humaine?
Je fais l'observation suivante. Dans le conseil d'administration des CFF, comme dans la direction de la CFF, les hommes du métier ont disparu au profit des managers, des financiers, des juristes. Je pense là à une réflexion profonde. Je plaiderais pour le retour des gens du métier qui seraient capables de mieux voir l'insertion de l'homme, de la femme, dans le métier. Et quand on a parlé, par exemple, des rythmes de vie, le rythme de la vie, le rythme du sommeil, il me semble que c'est tout à fait capital pour un métier comme celui de pilote de locomotive. Donc, humaniser, mais humaniser en commençant peut-être par la direction de ces grandes entreprises.
Alors, qui fait quoi? C'est qui commence? C'est qui donne l'input, pour utiliser ce terme-là, Olivier Français? C'est on mène un débat ou on tape du poing sur la table à la commission des transports lorsqu'on siège au national?
Je pense qu'il n'y a pas besoin de taper sur la table. Je pense que tant Doris Leuthard que la direction générale des chemins de fer, mm-hmm. que l'Union des transports publics va s'associer à cette réflexion et apportera les réponses. Mais comme l'a très bien dit le chef de l'Office fédéral des transports, à tout événement, il faut une analyse. Il faut du temps et puis il faudra donner des réponses. C'est clair, s'il n'y a pas de réponse, on ne sera pas bien sûr satisfait. Mais la direction générale des CFF a promis à la fin de ce mois une conférence de presse pour faire la synthèse de cet événement et les mesures qu'ils pourraient mettre en place. Et puis l'Office fédéral des transports a vu qu'elle était aussi très très attentive en tant qu'organe de surveillance pour voir comment lui, en tant que donneur d'ordre, doit apporter des modifications. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui l'Office fédéral des transports fait bien son métier. Il a des exigences qui sont sévères. Preuve en est par rapport au permis de conduire qui est donné à tous les mécaniciens qui sont sur le réseau. Parfois, il peut y avoir erreur humaine, erreur de jugement par rapport à la personne et plus particulièrement par rapport à son actualité médicale. Mm-hmm. Voilà, à cela, les choses vont devoir progresser. Maintenant, s'il y a une certaine notion du silence de la part de certains mécaniciens, entre autres quand ils vont chez le médecin, quand ils passent leur examen de contrôle, je peux comprendre aussi cette position-là parce que ces gens ont un travail. travail, ils aiment leur travail, ils aimeraient continuer aussi au sein de cette entreprise CFF. Et là, il y a peut-être aussi des mesures d'accompagnement apportées par rapport à des gens qui ont de la peine à subir, entre guillemets, ce jet ferroviaire, comme ça a été dit dans le reportage, et que justement, ils aient une réorientation de leur carrière.
Tous les matins, en fin d'émission, dans Ligne Directe, on accueillera un invité. Aujourd'hui, Renaud, qui nous appelle ?
Ah, il s'agit de Marie. Elle nous appelle de Genève, elle est infirmière et comme beaucoup d'autres, elle se montre critique vis-à-vis des CFF.
Marie est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pourquoi critique envers ces CFF hein?
Je dirais que je suis critique parce que donc dans les soins infirmiers, on a aussi des problèmes de sécurité et de risque d'incident. Et que de ce que j'ai entendu à la radio, c'est que les CFF ne sont pas encore dans la culture de l'erreur, mais sont encore toujours dans la culture de la faute. C'est-à-dire que tout incident et erreur n'est pas considéré comme une occasion d'apprendre et d'améliorer le système. Et de ce fait-là, on encourage les personnes à relater les erreurs et les incidents. Et ne pas, on ne les accuse pas, on les blâme pas. Et pour ça, il faut qu'il y ait un système qui soit mis en place parallèle à la hiérarchie, qui permette, par exemple, aux conducteurs de relater les incidents, de pas les considérer, de pas les garder pour eux.
Du management. Et...
Pardon?
C'est d'une forme de nouveau management, en fait, de revoir
voilà,
la façon de
protéger. Oui. Et puis aussi, je trouve, c'est très dangereux d'avoir ce mythe du conducteur qui ne fait pas d'erreur, parce que justement, ça favorise le tabou, et ça ne favorise pas l'amélioration du système.
D'accord. Voilà. Ben, je vous remercie, Marie,
pour cette réaction.
Justement, et ce parallèle avec les soins infirmiers. Je souligne que les CFF que j'ai contactés hier n'ont pas souhaité participer à cette émission, mais rappelle qu'ils ont prévu de convoquer la presse en fin de semaine prochaine pour évoquer précisément les questions de sécurité, les conditions de travail des mécaniciens et les solutions envisagées. Ces critiques, Daniel Mange, vous les comprenez. Vous avez l'impression que sur la communication, sur la façon aujourd'hui, il y a une nouvelle version des CFF, une nouvelle ère des CFF qu'elle doit revoir un tout petit peu son coefficient image.
Écoutez, moi je trouve normal que les CFF prennent leur temps pour s'exprimer. Moi j'ai vécu un épisode avec Andreas Meyer, le patron des CFF, et il a lui-même pris la direction d'un groupe de journalistes pour aller inspecter au fond du tunnel du Saint-Plon un train qui avait brûlé. Je l'ai trouvé courageux dans son intervention et il a montré par cet événement que la sécurité était au centre des priorités des CFF. Donc je ne ferai pas de procès aux CFF et j'attends sereinement
c'est pas ce qu'on a fait.
leur analyse.
Daniel Etcher, oui, juste le mot de la fin peut-être aujourd'hui sur ce parallèle que faisait d'ailleurs Marie qui dans les soins infirmiers, n'importe quel corps professionnel est de plus en plus pressé. Alors bien évidemment, on n'a pas de réponse adéquate à cela, mais qu'est-ce qu'il faudrait tenir en compte pour peut-être améliorer aujourd'hui, pour changer, on va dire, ce rapport entre homme, robot et cette envie du profit, de la productivité.
Mais je crois que Marie a très bien résumé tout ça. J'ai beaucoup aimé son intervention. Effectivement, je pense que le premier pas, c'est admettre que l'humain peut faire des erreurs, ne pas forcément stigmatiser ses erreurs, considérer que ça fait partie de notre humanité et que la machine, dans toute sa rationalité, nous apporte certainement beaucoup, mais qu'il y a un certain nombre de paramètres humains qu'elle ne peut pas remplacer et qu'il faut absolument revenir à ces valeurs-là.
Je vous remercie d'avoir été avec nous, Daniel Etcher-Couy, anthropologue à l'Université de Lausanne. Merci à Olivier Français et à Daniel Manche. Toutes les références sont sur notre site internet.